Voilà, donc nous sommes de retour en direct depuis l'infokiosque de la maison collective Malagnou. Alors voilà, nous parlions du collectif Sans Retour. Faut pas que je me trompe parce que c'est vrai, justement, on va en parler un petit peu après, mais il y a eu une multitude quand même de collectifs qui se sont intersoutenus et qui ont lutté ensemble dans ces luttes de convergence. On pourrait citer Solidarité, TAT, Nos Bunkers, etc. On reviendra là-dessus tout à l'heure, mais c'est vrai que des fois, on peut s'y perdre. C'est un peu mon cas. Et on sait que désormais, alors sous votre contrôle, hein, je dis, mais on peut dire que le collectif Perse Frontières serait cette plateforme fêtière, d'une certaine manière, qui convergerait justement tous ces collectifs. Est-ce que ça, c'est juste?
Oui, c'est effectivement le but de Perse Frontières. Oui.
D'accord. Alors, voilà, quelle est la suite du programme? Nous allons écouter quelques témoignages. Voulez-vous peut-être en dire quelques mots, la manière dont les sons ont été captés, les personnes qui sont intervenues, les voix? Je crois que les voix, certaines voix ont dû être changées pour pas que ces personnes-là puissent être par la suite enquiquinées.
Effectivement, oui. C'était un peu une demande parce que on l'a vu notamment pendant les mouvements de lutte que la répression, elle était réelle et forte et grande quand les personnes en exil s'exprimaient, que ce soit dans les intimidations par la sécurité du foyer ou alors plus large par la police. Et du coup, c'est des témoignages que des personnes, voilà, quand on lutte longtemps avec des personnes, c'est aussi, il y a aussi des amitiés, des relations qui se créent et du coup des contacts qui restent au-delà des luttes et au-delà de aussi tout ça. Et du coup, on a eu la possibilité de discuter avec certaines d'entre elles pour qu'elles racontent et leur expérience, mais aussi qu'elles amènent une analyse sur ce qu'elles vivent.
Ouais, et effectivement, j'imagine le quotidien aussi qu'elles vivent ici, qui est certainement, qui pourrait être quand même un petit peu plus digne que ce qu'il est en tout cas actuellement. Clairement, ces personnes qui sont, ça prend d'autant plus de valeur dès lors qu'on sait que toutes ces personnes-là, justement, ont finalement peu accès à des moyens d'expression publique, puisque justement elles sont inquiétées, en plus d'être dans des situations très délicates qui les portent peut-être moins que d'autres à s'exprimer en public, je veux dire. Donc c'est d'autant plus important ce travail que vous avez fait. Alors on y va directement avec les témoignages, c'est ça?
Mm-hmm.
Ok, c'est parti.
Mais en fait, vous êtes maltraité dans le foyer.
Oh, dans le foyer, on a maltraité, mais quand on va dans le bunker, c'est comme un bête, putain. T'arrives même pas à respirer, c'est de la merde.
Non, ça oui, j'ai vécu.
Regarde, c'est comme des prisons. Tu dors après des heures, t'as pas le droit de repas. Tu es là, t'as pas le droit de déjeuner.
Mais moi, l'après-midi,
tu viens après deux heures.
Ouais.
Non, t'es obligé parce que t'as obligé, mon pote, parce qu'il a rien à donner là-bas. Quand tu habites dans un bunker, il a dit t'as pas le droit de l'aide sociale.
Nous, pendant 3 ans, on mange du pain au fromage, hein, parce qu'on n'arrive pas à manger les plats là-bas. Déjà, le couscous et l'acide, après, si tu ne manges pas à midi, le soir, ils nous donnent quoi à l'époque? C'est là pareil, couscous ou du riz.
C'est pareil, il y a 3 plats, il y a des pâtes, il y a des couscous, il y a des riz.
Ouais, les pâtes, nous on prend les pâtes, non? Non, on prend le couscous, on met
avec du lait. T'es obligé de jeter la viande parce que la viande, tu ne savent pas, ça veut dire quoi? Dedans, juste ils mangent des pâtes avec du beurre, avec n'importe quoi. Parce que, le problème...
Mais après c'est ça le problème.
T'as pas le droit de manger. Il a dit non, on n'a pas le droit maintenant de donner, monsieur. Juste quand tu trouves un secrétaire gentil, tu le connais, t'as fait avec lui un peu de business, ça marche.
Après, c'est ça le problème. Après, c'est ça le problème. Le problème, c'est que t'habites dans un bunker, les gens, ils prennent pas aide sociale. Ouais. Genre, parce qu'il se nourrit là-bas, comme il a dit, les plats et tout. Et c'est pour ça, les gens, après, ils sortent pour chercher l'argent. Et c'est pour ça, ça finit mal à chaque fois.
Normalement, l'aide sociale, ce n'est pas pour le manger, pour les cigarettes, les gens qui ne font rien, les films, le besoin d'acheter des vêtements. Mais eux, elle a dit non, pour le nourriture. Non, c'est en Suisse, il n'y a pas besoin de nourriture. Même tu rentres dans le magasin, tu manges devant un, tu sors. La personne qui va te toucher, même la police, elle n'a pas le droit de toucher. Mais le problème, c'est eux, ils ne veulent pas donner. Ils veulent faire ça pour les gens qui les viennent fatiguer, les gens, les venir, t'as vu, fatiguer les gens, pour les gens qui quittent la Suisse, ils font les bancaires pour les jouer moralement pour les gens, pour les quitter la Suisse. Ce sera les bancaires. Il y a beaucoup de place dans le foyer, mais il a fait les bancaires pour les faire fatiguer, pour. T'es déprimé, moi j'ai déprimé. Jamais j'ai attendu un mois déprimé au bled. Je venais ici dans le bunker, j'ai déprimé 3 fois mon pote.
Nos employés normal, ils dépriment au banqueur. Même les chiens, ils dépriment là-bas en bas. Une fois, une dame, elle a descendu et elle a dit, mon chien, je le laisse pas vivre là-bas. Devant tout le monde, on était assis. Elle a dit, mon chien, j'arrive pas à le laisser vivre là-bas en bas. Nous, on a habité, on était 40 personnes dans une chambre, il n'y a même pas de fenêtre. T'imagines que quelqu'un, ils ont bourré, ils ont bu l'alcool, ça sent l'alcool. L'autre, ah, il pète, mais là-bas, l'autre, il ronfle. Heureusement, on était en
Moi, j'ai fait demande d'asile dans les années. Dans 2011, je suis allé dans un foyer qui s'appelle Anir pour un jour. Après, ils m'ont envoyé dans un bunker. Et le bunker, j'ai passé un bon moment, presque 2 ans. Ce que j'ai vu dans le bunker, c'est un truc, je sais pas, on n'a pas d'intimité, les flics ils viennent dès le matin, 6h30, 7h, perquisent tout le monde. Il y a 2 chambres pour les Arabes, il y a 2 chambres pour les Africains. Et ils viennent de temps en temps pour les Africains, pour faire, ils donnent des trucs pour se faire avaler, pour vomir, pour voir ce qu'ils ont comme produit coq. Et après 2 jours, ils viennent pour nous, pour faire des fouilles partout. T'as un téléphone, il n'est pas justifié, que t'as une fesse sur ça, t'as acheté sur internet, ils confisquent. T'as 600 francs, ils vont dire que t'as pas le droit d'avoir 600 francs, mais moi, j'ai 425 pour avoir l'hospice général, j'ai mon apprentissage de 300, alors j'ai 700 et quelques par mois, j'ai le droit d'avoir 600. C'est d'avoir une montre, un bout de shit, il n'y a pas de procédure, il vient, il y a des flics qui viennent. Si Jean-Claude s'appelle avec son équipe, il vient chaque matin. Il rentre dans les chambres, il fait les fouilles, il trouve de la drogue, il trouve des trucs comme ça, il prend sans procédure, sans rien. C'est pas la première fois, c'est pas la deuxième fois, il a fait avec tout le monde. On dirait qu'il a la loi, il a les clés, il a tout dans sa poche. Il peut faire ce qu'il veut. Comme le dit la procédure aussi, la loi en Suisse, il se fait choper avec de la drogue, un truc volé, un truc aussi. Tu vas aller au poste, tu vas faire une procédure. Mais lui, il n'a jamais fait ça. Ça veut dire pour nous, il y a un truc, ça marche pas. Ça veut dire qu'il lui qui prend pour lui. Nous, on veut savoir juste exact comment ça se passe la loi. Nous, on comprend plus la loi, comment ça se passe en Suisse. C'est une procédure pour aller au poste où il y a les flics comme ça, ils rentrent, ils prennent, ils partent. J'étais dans le bunker, je suis renvoyé au vernis. Et ça se passe comme ça, comme chaque fois. Il vient 8h du matin, bonjour, bonjour, on va faire une fouille. Ni un mandat d'arrêt, ni mandat de perquise, ni rien.
Sans motif.
Il vient, il rentre, il va dire ça bout de shit, 5 grammes de shit, il fait quoi? Je suis consommateur. J'ai le droit de consommer. Tu chopes, tu fais une amende. Lui, il n'a jamais fait une amende. Il prend, il fait ce qu'il veut parce que lui, c'est un chef de protecteur, chef de sécurité des foyers à Genève. Mais si la loi, elle dit qu'il peut faire ça, alors je suis désolé, la loi en Suisse, elle a un problème. Et grosso modo, ce qui se parle entre les protectas et entre le chef des protectas, pour nous, ils parlent de nous, que nous sommes des criminels, c'est eux les plus criminels que nous. Parce que tu parles des protectas, de temps en temps, ils sont avec nous. Il y a des protectas qui fument du shit, il y a des protectas qui consomment de la coke, qui viennent choper des récurrents, ouais, quelques-uns des récurrents.
Pas mal de fois.
Pas mal de fois, pour acheter des ordinateurs de marque, d'une bonne marque, ils l'achètent. Des téléphones, ils l'achètent parce qu'eux, ils habitent en France, ils profitent du système. Après, si jamais il y a les flics, ils sont avec les flics. Si jamais il n'y a pas les flics, ils sont avec nous. Il y a quelques-uns, mes potes, je connais mes potes, qui ont été très potes avec des protectas. S'il y a des flics, s'il y a des trucs comme ça, ils l'appellent, lui, il dit, faites attention, aujourd'hui, il y a une fouille. Pour leur intérêt, l'autre, il n'est pas ami avec le protectas, il se fait balancer par les protectas, qu'il fait très chelou. L'autre, il fait plus que l'autre des trucs du délire. Il ne s'est pas balancé parce qu'il est ami avec le protectas ou il est...
Ah, attends, je me souviens, moi, d'une histoire d'un pote qui a laissé sa veste à l'entrée du bâtiment H et il y avait 200 balles dedans.
Il était dans l'escalier, ils sont venus rentrer pour faire le fouille dans ce bâtiment. Et ce bâtiment, ils ont fait quoi? Ils ont trouvé un ami qu'on connaît. Il avait un pax de 8 de 1 gramme et quelques pour consommer. Ils l'ont chopé. Ils l'ont dit, c'est quoi ça? C'est interdire de fumer. Lui, il n'a pas encore relé son joint. Ils l'ont pris le paquet, ils l'ont fouillé. Il a une veste, il a 200 balles dans la veste. Ils l'ont trouvé 200 balles dans son truc. Ils l'ont dit, t'as pas le droit. On dirait, se fait payer sans faire procédure, sans une papier d'amende, sans rien. Ils l'ont pris 200 balles
Et mon pote, il a insisté, il a dit, donne-moi 200 balles, sinon prends-moi au poste, fais-moi la procédure. Ça, les 200 balles pour manger toute la moine. Tu veux pas prendre ça. Après, le policier, il a fait quoi? Il a rendu. Ça veut dire, dans la mentalité, il y a un truc qui se cloche. Pourquoi il a pris, après il le rend. S'il a le droit de prendre, il le prend. S'il n'a pas le droit de prendre, il n'a pas le droit. Pourquoi il le prend, après il le rend. C'est ça. Pas nous sommes les méchants. Il y a des méchants plus que nous. Il y a des criminels plus que nous. Il faut savoir, c'est nous, les petites mains, qui se fait gérer par le système. Et c'est tout.
Vous sentez cette odeur? Vous sentez cette odeur?
Quoi?
C'est le napalm, fils. Il n'y a rien d'autre au monde qui ait cette odeur-là. J'adore respirer l'odeur du napalm le matin. Comme l'odeur de la victoire. Elle ne durera pas toujours, cette guerre.
Libre Radio. La radio du grand soir et des petits matins. www.libradio.org.
La guerre, c'est. Non, mais dans le sens où c'est incroyable. Là, on entend les conditions de vie. Bien entendu qu'on ne peut pas se mettre à la place parce qu'on en entend quelques, partiellement quelques témoignages comme ça. Et à cela s'ajoutent d'autres problèmes qui sont par exemple celui du contrôle social dont tu vas nous parler maintenant, Lou, en lisant un texte sur les papiers blancs, c'est ça, hein ? Est-ce que tu voudrais juste repréciser encore ce que c'est qu'un papier blanc ?
Oui, alors le papier blanc, c'est justement ce que les personnes qui sont déboutées de l'asile, donc qui ont soit eu une décision négative à leur demande d'asile, soit eu une décision de non-entrée en matière, c'est un bout de papier, c'est vraiment une feuille blanche qu'elles reçoivent, qui fait office un peu de papier d'identité, c'est là où il y a le nom, prénom, date de naissance, lieu de vie, adresse, tout ça. Et c'est un papier qu'elles doivent aller présenter à l'OCPM, soit une fois par mois, soit une fois par semaine, soit chaque jour, genre selon le contrôle que l'OCPM a envie d'avoir sur la personne. Mais je vais lire ce texte de ce qui a été écrit par le collectif Sans Retour, parce que je trouve qu'il voilà, il démontre très bien ce qu'est ce papier blanc. Donc c'est pas le texte en entier, j'ai un peu sélectionné pour faire un peu plus court, mais le principal y est. Alors le titre c'est « Le papier blanc ou comment mieux contrôler les personnes en exil ». Parmi la panoplie des moyens que l'État déploie pour briser les réfugiés déboutés, l'accès à l'aide d'urgence figure en tête de liste. Elle est conditionnée à l'obtention et au renouvellement fréquent du papier blanc, un avatar de pièce d'identité qui sert surtout à contrôler les personnes en exil. Ce papier n'octroie aucune protection légale mais permet l'accès à l'aide d'urgence. Bon prince, l'État ne laisse pas crever les illégaux en Suisse, du moins en théorie. En attendant de les expulser, il leur octroie l'aide d'urgence qui consiste en un hébergement en bunker ou dans un foyer surpeuplé avec soit des plateaux repas, soit un soutien financier de 10 francs par jour. Et bien sûr, non seulement il est interdit de travailler, mais encore, il va sans dire que l'État et l'hospice général ne se gênent pas pour retirer ce soutien dérisoire sous un prétexte ou un autre. À Genève, pour obtenir cette aide d'urgence et continuer à bénéficier d'un avatar de pièces d'identité, il faut se rendre à l'Office cantonal de la population et des migrations et faire tamponner le dit papier blanc. Le renouvellement de ce non-permis de séjour a lieu une fois par mois, une fois par semaine, ou même une fois par jour dans certains cas, selon le degré de surveillance. En pratique, cela se passe dans les locaux d'une administration hostile, ouverte quelques heures par jour pour favoriser les départs et les expulsions. Durant l'attente du tampon, la peur à l'idée de se faire arrêter est permanente, puisque la police n'hésite pas à venir chercher les migrants et migrantes déboutés directement à l'OCPM. Faut-il rappeler que le système de l'asile et l'aide d'urgence en particulier consiste à dégoûter les personnes en exil pour qu'elles quittent le pays ? En rendant le séjour en Suisse si peu attrayant, l'État veut passer l'envie à d'autres réfugiés de les rejoindre. Or, on s'en doute bien, ça ne marche pas. Car contrairement à ce que l'État et les médias veulent nous faire croire, ceux qui se retrouvent à l'aide d'urgence sont dans l'impossibilité de retourner dans leur pays et n'ont pas d'alternative à cette forme de survie. En réalité, lorsque les personnes en exil sont trop épuisées par les conditions qui leur sont imposées, elles préfèrent renoncer à ce droit et disparaître administrativement. Ce bout de papier blanc cristallise la surveillance et l'acharnement systématique que les autorités infligent aux personnes en exil. En conditionnant leurs moyens d'existence à une relation de dépendance et de soumission à l'égard des autorités, le système de l'aide d'urgence les prive de toute liberté d'action et de maîtrise de leur propre vie. Pour un coût dérisoire, l'État peut ainsi contrôler ces personnes et les retrouver facilement à l'heure du renvoi, tandis qu'elles restent suspendues à l'espoir impossible d'une régularisation de leur situation. Du coup, voilà, ça c'était le texte de Sans Retour. Je vais peut-être juste revenir sur un petit élément qui est vraiment ce truc de disparaître. Il y a effectivement beaucoup, on l'entendra aussi, il y a un témoignage d'une personne qui décide de quitter le système de l'hospice général. Donc c'est vraiment pour montrer que ce lien entre répression et aide sociale, il y a des besoins vitaux que la Suisse est censée combler pour chacun, chacune qui se retrouve sur son territoire. Et avec la répression qui est intrinsèquement, enfin qui est fortement liée à cette aide sociale, les personnes, en réalité, ce qui est fait, c'est que les personnes sont poussées à disparaître et du coup à n'avoir plus rien. Déjà que c'est dérisoire et tout ça, hein, mais encore moins, quoi.
Il y a même un précédent tragique qui concerne la fratrie Musa. Oui. Où c'est au moment où les personnes se rendaient, oui, pour obtenir leur, enfin pour faire tamponner leur papier blanc, c'est là où ils ont été cueillis, oui, et puis pour expulsion.
Oui, effectivement.
Donc ça, c'est des comportements en plus totalement déloyaux, en plus de tout le reste.
Oui.
Et effectivement, on s'aperçoit que ces personnes sont, évidemment, ils vont la peur au ventre. Et comme tu l'as dit, qu'elles sont écœurées au point de renoncer même à, et on parle bien de minimum.
Oui.
L'aide d'urgence, c'est quelque chose de tout à fait dérisoire. Et il faut vraiment qu'on le rappelle pour que les gens ne se rendent compte. Là, on a entendu la personne dire « Mon chien n'irait pas vivre là-dedans.
Mm-hmm. »
C'est des conditions particulièrement atroces. Et c'est vrai qu'on peut de nouveau saluer le travail qui est fait par tous ces collectifs qui, à plusieurs reprises, ont pu justement faire témoigner des personnes sur les conditions. Moi, j'ai effectivement également vu des personnes dessiner ce à quoi elles assistaient dans les bunkers. Parce qu'il faut aussi le rappeler qu'il y a également des caméras qui sont placées un peu partout, qu'on ne peut pas effectivement se faire à manger à l'intérieur, qu'effectivement les lits bougent et que les personnes arrivent à n'importe quelle heure. Donc effectivement, ça fait immédiatement réveiller toute la série de personnes qui dorment. On pourrait peut-être revenir aussi sur l'alimentation, dont on sait qu'elle est souvent limite, qu'il n'y a pas les compositions des mets, qu'il y a beaucoup de choses qui sont manquantes, et que tout ça, mis bout à bout, ben, ça crée des dispositifs totalement inhumains, et que c'est vraiment pas du tout l'idée, parce qu'on entend encore souvent dire, on a des vieux textes en disant, oui, mais finalement, ces gens-là quittent un endroit tellement terrible que quoi qu'il en soit, elles pourraient se contenter. Non, on ne traite pas les personnes, quiconque que ce soit, on ne peut pas traiter des personnes comme ça, de toute manière. Alors, voilà.
Ouais,
oui,
juste
non, vas-y seulement,
je pense que la famille Moussa, qui a été lâchement arrêtée à l'OCPM et violemment, c'est un cas qui a été médiatisé par le soutien de Solidarité Tate, entre autres, et de plusieurs collectifs qui les ont soutenus, mais c'est pas du tout un cas particulier. C'est vraiment quelque chose de très régulier. Il y a des personnes qui font des visites à Framboise et Favra, les centres de détention administratifs. Énormément des personnes qui se trouvent là-dedans ont été arrêtées à l'OCPM alors qu'elles allaient renouveler leur tampon, comme l'État l'oblige, en fait.
C'est une
obligation de l'État pour pouvoir bénéficier de la maigre aide de l'hospice général.
Et on pourrait également parler du centre de rétention à l'aéroport, hein, où effectivement des personnes qui arrivent directement, qui tombent d'un avion, eh bien, elles sont déjà mises dans ce centre à l'aéroport et puis conduites immédiatement à Framboise, ce qui fait qu'elles font déjà des mois de prison. Ça, c'est l'accueil que la Suisse réserve à des personnes qui sont justement en fuite à la recherche d'un semblant de protection. Mais il faut savoir que la situation est franchement de loin parce que ce qu'on pourrait s'attendre.
Oui, et à nouveau, peut-être ajouter que c'est vraiment un système qui est voulu. Il est pas les conditions de vie, on l'a dit, mais il faut le répéter, elles sont c'est fait exprès, en fait, que ça soit mal. Et l'aide d'urgence, c'est la suppression de l'aide sociale. C'est relativement récent, ça fait 10 ans que ça existe. Et ça a été fait pour que les personnes qui sont dans les catégories les plus précaires, les personnes qui ont été déboutées ou non entrées en matière, quittent la Suisse, qu'elles soient dégoûtées au point de quitter la Suisse. Et les bunkers, l'ouverture des bunkers, ça a été pensé comme ça. Après, les bunkers se sont étendus à d'autres types de populations. En fait, on se retrouvait énormément de gens qui passaient par le biais de l'asile, se retrouvaient à un moment donné dans les bunkers. Mais en fait, ça, c'est des politiques publiques de fermeture de lieux d'hébergement. Et ça, il faut toujours se le rappeler. Donc, quand on nous dit, souvent, on a des discours du côté de l'État, de l'hospice général, qui nous disent, ah oui, mais vous comprenez, c'est très, très dur, mais c'est les contingences matérielles. C'est parce que c'est la crise du logement, c'est parce que on n'a pas de moyens. Ben non, c'est pas vrai. En fait, ça a été décidé politiquement à un moment donné, dans les années 2000, qu'on allait mettre la misère aux gens. Et tout ce que ça évoque, et ben c'est beaucoup le carcéral, en fait. Quand on écoute les témoignages, ben ça m'évoque en fait la prison. Alors, il y a différents types de prisons. Il y a la prison des gens qui sont mis effectivement à Chandelon. Mais en fait, c'est une gradation. Les bunkers, c'est déjà une antichambre de prison. Les foyers aussi, quand on entend ce qui se passe avec certains témoignages de ce qu'ils sont dit, ça nous évoque un rapport carcéral avec des matons. Et voilà, et puis enfin, à Malagnou, quand on réfléchit à ça et qu'on dit qu'est-ce que pourrait devenir, on se dit voilà, le spi général veut prendre cette maison et en faire un foyer, ça nous fait un peu le vertige, quoi. On se dit en fait, cette maison où il y a de la vie, voilà, ce qui était un peu dit dans le texte qui a été lu tout à l'heure, et ben ça deviendrait quelque chose qui serait dans un dispositif de contrôle carcéral ou paracarcéral, ça nous flanque la rage.
J'imagine, oui, bien sûr. Est-ce qu'à son retour, vous avez suivi ou vous suivez ce qui s'est passé justement à Chiasso, à la frontière tessinoise et italienne ? Parce que là, on a clairement entendu des cas où des mineurs non accompagnés ont été clairement éconduits, alors que ça, c'est illégal. Et je ne sais pas où en est la situation là-bas. Est-ce que tu sais si tu as quelqu'un de voit des retours, des nouvelles de la situation qui s'est produite là-bas ?
J'ai pas beaucoup plus d'informations que ce que tu as dit, mais oui, c'est aussi une envie aussi de briser les... Enfin, c'est aussi beaucoup ça que l'État fait, individualise aussi sur les personnes en exil. Hein, ta situation, elle est individuelle, c'est toi individu qu'on va prendre, qu'on va mettre en prison, qu'on va déplacer d'un foyer, un bunker et tout ça. Et ça, c'est aussi été la force de dire, en fait, non, c'est la répression, elle ne va pas se passer de manière individuelle parce que la réponse, elle est fortement difficile. Puis je pense que c'est aussi ça, entre cantons, entre pays, que nous, on doit aussi faire attention à ça, de pas voir ces situations comme des situations individuelles. Du coup, des contacts, il y en a un petit peu, mais je n'ai pas plus d'informations sur la situation.
Bon, parce que c'est vrai qu'effectivement, c'est assez affolant d'observer que, autant quand on est dans ces dispositifs-là, la personne, elle, n'a pas le droit de se mobiliser, elle ne peut pas quitter le canton, elle peut pas, voilà, elle doit faire preuve, elle doit montrer patte blanche à tout moment, cette histoire de papier blanc, c'est effectivement ça. Mais à l'inverse, ces personnes sont déplacées de manière institutionnelle pour que justement elle ne puisse pas se retrouver parmi des pairs, parmi des ou tenter d'organiser des solidarités de groupes. C'est assez affolant de voir cette contradiction d'une certaine manière, à moins qu'effectivement on décèle cette volonté, comme vous l'avez dit, et qui est évidemment là, on peut pas la nier, qui est cette volonté de briser les individus et de les renvoyer dans un endroit d'où ils ne peuvent pas, dans lequel ils ne peuvent pas retourner, a priori.
Oui, puis c'est la situation que décrit Karl, c'est vraiment une situation qui est largement répandue et connue. Enfin, je veux dire, il n'y a que le spi général et l'État qui pensent qu'il y a des personnes qui croient en leur réelle politique de problème, de place, de logement. On l'a vu dans le témoignage tout à l'heure, la place dans les foyers, elle existe. Les gens, ils sont quand même en bunker, les maisons vides, elles sont là. Pourtant, les gens, ils sont quand même en bunker, Du coup, voilà, tout ce truc du dégoût, la politique du dégoût, c'est sûr que tout le monde l'a très bien cerné. Et les premiers concernés, évidemment, l'ont cerné encore bien plus au préalable que tout le monde, quoi.
Il y a un acteur qui revient souvent, c'est le spi général, donc qui prendrait la maison de Malagnou et qui a à sa charge la gestion, on peut utiliser ce terme horrible pour parler des personnes en exil. C'est l'institution qui à la fois s'occupe de l'accueil des migrants, ils appellent ça l'aide aux migrants, c'est leur terme, et qui s'occupe de dispenser toute l'aide sociale en canton. Donc il y a beaucoup de gens en fait qui se retrouvent dans leurs griffes. Et du coup, ils apparaissent en tout cas comme plutôt le versant gentil de l'État, celui qui dispense l'aide sociale, celui qui aide. Mais en fait, on se rend compte qu'ils collaborent avec les autorités de manière très ferme, les autorités pour les politiques, le côté méchant de l'État, le côté policier, le côté de la Suisse qui veut virer les gens. Mais il y a toujours ce paradoxe que le spi général dépense beaucoup d'énergie à communiquer, et ça surtout depuis que les mouvements se sont intensifiés, pour donner une certaine image d'elle-même. Et du coup, là, on a, son retour a amené un petit montage qui a été fait suite à toute une restructuration de communication qui a été faite au sein de l'hospice. Oui, ils parlent d'eux-mêmes et il y a des vidéos promotionnelles qui tournent sur Internet. Il y a tout le graphisme qui a changé. Et peut-être qu'on pourrait écouter ça maintenant.
Allons-y.
On ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Chaque an, peu un jour,
Depuis 5 siècles, l'esprit général est à côté de la plaque, à côté des personnes en difficulté à Genève. Nous n'accompagnons pas les personnes dans leur démarche de réinsertion. Nous n'accueillons pas les migrants et nous ne favorisons pas leur intégration. Nous les isolons. Mieux vivre ensemble à Genève, c'est pas avec l'esprit.
Ben voilà, ouais. C'est la propagande de l'OSMIS. Après ce qui s'est passé à Franck Thomas, je cherchais encore un vieux communiqué pour revenir là-dessus, parce que Franck Thomas, c'est l'OSMIS également. Un foyer qui a fermé. Pour. Voilà. Ben ouais, que dire ?
C'était donc une vidéo, c'est ça, une vidéo promotionnelle de l'OSMIS, un petit peu détournée, il me semble quand même.
Oui. Ouais, que peut-on s'attendre de l'OSMIS général, selon vous ? Est-ce que c'est encore des gens avec lesquels. Est-ce encore là un partenaire ? Ou est-ce que c'est... Bon, voilà. On peut considérer que non.
Ouais.
Ouais, on peut considérer que...
Le problème, c'est que c'est des personnes... C'est une institution qui est là, qui est existante et qui est censée combler des personnes qui sont payées pour censées faire en sorte que la situation soit agréable et digne, quoi. Sauf qu'il se trouve que de tous les témoignages qu'on a eus vraiment dans ces 3-4 années... Il n'y en a, je pense, absolument eu aucun de bon, ou voilà, mis à part des personnes, évidemment. Voilà. Mais non, l'hospice général ne gère absolument rien.
D'accord, donc on va écouter encore ces nouveaux, un petit témoignage, c'est parti.
Depuis que j'ai fait mon demande d'asile en Suisse, j'ai jamais eu d'aide, ni de l'assistance sociale, ni me diriger pour aller où, pour trouver un travail, pour faire un apprentissage pour se faire intégrer au professionnalisme et tout ça. Jamais. J'ai fait tout seul pour avoir des stages de 6 mois. Pour aller à l'école, j'ai déposé le papier tout seul. Et de temps en temps, quand je vais aller voir mon assistant social pour expliquer comment je peux faire, je suis en train de voir. Elle fait avec des gens d'une autre race. Elle ouvre la porte pour dire que tu peux aller à l'école, tu peux s'inscrire là. Pour faire la santé, il faut aller là. Si tu as mal aux dents, il faut aller là. Moi, chaque fois, je demande des trucs. J'ai jamais eu de réponse, j'ai jamais eu de bons trucs. Même mes camarades, nous, je sais pas, il y a un problème avec les assistants sociaux, avec presque, je peux pas dire, avec presque tous les Maghrébins, ils nous évitent, ils veulent pas essayer avec nous qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a les biens et les mauvais dans toutes les races. Mais là, eux, il y a un barrage depuis des années qu'il est là pour ne pas franchir une limite professionnalisme, trouver un travail, se faire intégrer, tout, on peut pas. On fait tout seul, il y a des gens qui peuvent faire pour moi, j'ai fait l'école au bled, je connais ce qui peut se passer, j'ai travaillé, j'ai fait tout ça. Mais il y a des gens qui n'ont jamais fait des trucs comme ça, ils ne savent pas où ils vont aller, où ils vont faire des CV, où ils vont faire l'école, où faire l'apprentissage, où faire le volontaire. Il y a des gens qui vont faire travail volontaire parce qu'ils s'ennuient, ils n'ont rien à faire, ils ne vont pas se faire balancer dans les mauvais chemins. Mais c'est chaud, si on n'a pas d'aide, on ne peut pas faire tout seul, parce qu'on n'est pas né ici, on ne connaît pas l'État, on ne connaît pas la loi exacte. Avec le temps, maintenant, ça fait des années que je suis là, j'ai compris que le système, il est contre nous, pour essayer, qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce qu'il y a des gens qui sont intelligents, il y a des gens qui peuvent faire des trucs, il y a des gens qui ont des diplômes, qui ont des bacs, qui ont tout, qui ont fui leur pays.
Alors moi, ce que je voulais dire, alors donnez-nous une solution, des propositions pour travail, même bénévolat, après, pour s'intégrer un petit peu mieux. Après, parce que peut-être les gens, ils croient, si on deal ou on vole comme ça, on n'est pas fiers. Non, bien sûr, on a fait des études chez nous, je sais pas, il y en a une bonne majorité qui ont fait des études. Et puis, faites-nous des propositions pour des travails, même bénévolat. Après, jugez-nous, après, c'est pas grave, vous pouvez nous juger. C'est ce qu'on demande, c'est tout. Après, parce qu'aujourd'hui, peut-être pour des gens qui croient qu'on dit comme ça, qu'ils nous voient bien habillés ou je sais pas moi, on est fiers. Non, on n'est pas fiers. Bien sûr, on n'a pas été éduqués comme ça. Nous, on est venus ici, en Suisse, en Europe en général, pour s'améliorer, pour faire notre vie. Parce que chez nous, on va pas, ça c'est un autre débat. On va pas parler de comment ça se passe chez nous.
Si on n'a pas d'urgence,
regardez comment on travaille. Je sais pas, faites-nous des propositions. Après, vous pouvez nous juger. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Mais dans sa lustre,
Nos gens sont terriblement pauvres et...
C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches.
Libre Radio, la radio des riches, très riches. Pour vous, les pauvres, très pauvres. www.libradio.org.
Tu veux... Direct, ouais. Vas-y, c'est parti.
Non, ouais, bah, après ces témoignages, eh ben, on aimerait parler un peu de la lutte. Oui. C'est pour ça qu'on avait envie que Sans Retour vienne. La Nuit en Lutte voulait entendre Sans Retour parler des... raconter un peu les luttes qu'il y a eu, surtout à ces deux, maintenant trois dernières années. Il y avait évidemment des luttes avant, hein, mais donc ces trois dernières années, ça a été particulièrement intéressant autour de ces questions de conditions d'hébergement et conditions de vie, conditions d'accueil. Voilà, est-ce qu'on écoute du son ou est-ce qu'on parle un peu, tu veux introduire?
En tout cas, de nouveau, là on entend qu'il y a des volontés vraiment de s'intégrer, de parler, et on voit que de l'autre bout de la lorgnette, on les invisibilise, que ces personnes-là n'ont pas les permiennes, si je ne me trompe pas, ont vocation à même trouver un travail, non? Mais effectivement, dans les faits, ils ne peuvent pas, puisque avec ce cortège d'idées comme ça reçues qui les accompagnent, qui sont vraiment créées, toutes ces choses fantasmées qui leur sont assignées, eh bien, ces personnes-là ne peuvent pas trouver un job. Là, on entend même donnez-nous du bénévolat pour qu'on puisse au moins rencontrer des gens, d'où l'intérêt, d'où l'importance, de nouveau, on le rappellera après tout à l'heure, de ces rencontres que vous organisez notamment. Et alors effectivement, ces luttes, parce qu'on parlait tout à l'heure aussi de ces différents, de cette constellation de collectifs en lutte, que ce soit No Bunkers, Stop Renvoi, etc., etc. Est-ce que c'est ça l'idée, c'était là d'arriver à parler de, oui, ça et puis de démontrer la convergence de ces luttes?
Oui, je pense que c'était l'idée de Karl de dire un peu, voilà, maintenant on a vu la violence de l'hospice général, de l'État, de la police, de la prison, enfin voilà, qui se regroupent tous sous l'État. Et maintenant, voir un peu comment toutes les personnes, en fait, évidemment, il y a une résistance forte qui a été présente et qui est présente. Et alors nous, on veut revenir sur la lutte Stop Bunker, No Bunker, Frank Thomas. C'est un peu ça dont on va parler brièvement maintenant. C'est sûr qu'il y a beaucoup aussi de collectifs de soutien qui ont plutôt un peu le même statut que Sans Retour, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas concernés par cette violence du système de l'asile, mais qui tentent d'apporter un soutien. Et voilà, ça, ces collectifs sont effectivement quand même nombreux, et individus aussi, hein, des personnes qui soutiennent individuellement sans faire partie de collectifs. Mais du coup, la lutte Stop Bunker, dont on va entendre maintenant un petit peu de manifestation de cette lutte-là, pour nous mettre dans le bain.
Oui, la lutte Stop Bunker qui a commencé, en fait, il y a beaucoup de choses qui ont commencé, disons, à la fin de l'année 2014. Stop Bunker, ça vient d'un groupe qui, de manière autonome, de personnes qui vivaient dans les bunkers, ont décidé de prendre la parole et de lire une lettre devant le siège de l'Hospice Général qui est à Genève à Rives. Il y avait eu la même chose, en fait, qui s'était passée dans le canton de Vaud au préalable. Il y a des gens à Genève qui ont voulu faire ça. Et en fait, ça a été le début d'un grand foisonnement. Un grand foisonnement parce que en parallèle, eh ben, il se passait aussi beaucoup de choses au TAT, donc des gens qui n'étaient pas dans les bunkers, le foyer des TAT, le grand foyer de Avernier, oui, où il y a eu un incendie. C'était en novembre 2014, un incendie où quelqu'un est mort. Il y a eu plusieurs personnes qui sont blessées gravement. Aujourd'hui, l'enquête est toujours en cours, mais il semblerait que la responsabilité de l'État soit clairement engagée. C'est les échos qu'on a par la presse. Voilà. Et puis du coup, ça aussi, ça a créé une résistance et des choses qui étaient relativement séparées au début qui vont finir par se retrouver. Mais disons que il y avait ces deux aspects, les luttes au TAT suite à l'incendie et les luttes des personnes qui étaient dans les bunkers et qui ont décidé de prendre la parole et de lire une lettre. Après qu'il y ait eu cette prise de parole, en fait, ça ne s'est pas arrêté là. Il y a eu des rencontres avec les personnes de soutien, des collectifs qui se sont formés. Et ça a donné lieu à un foisonnement de manifestations, d'interventions, aussi bien au niveau institutionnel que de trucs très concrets comme en fait, se rencontrer et boire un thé devant un bunker. Et voilà, et puis peut-être si on voulait, il y a sûrement plein de les gens qui nous écoutent ont vécu ces moments, parce que ça, il y a les gens qui suivent un peu les luttes sociales à Genève, on ne peut pas plus passer à côté. Mais peut-être juste quand même pour se faire plaisir, écouter des petits, petite bribe de ces moments de manifestation de rue qui étaient vraiment assez fortes.
Nos restaurants mobilisés, est déterminé dans ce bunker. Nous gardons espoir que nos conditions de vie changent. La lutte continue.
Stop bunker! Stop bunker!
Stop bunker!
Stop bunker!
Stop bunker!
Stop bunker!
Stop bunker!
Stop bunker!
Stop renvoi!
Stop renvoi!
Stop renvoi!
Stop renvoi!
Stop renvoi!
Stop renvoi!
Stop bunker!
Stop bunker!
Stop bunker!
Stop bunker!
Protect us, don't protect us.
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 Protect us, don't protect us.